À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le mercredi 24 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
La réduction du temps de travail collectif dans les entreprises fait un flop. 5 organisations seulement ont accepté de participer à l'expérience. Le résultat de Tesla sont en recul partout, mais la marque promet de nouveaux modèles moins chers pour contrer la concurrence. ExoBiologics, une biotech liégeoise, lève 16 millions d'euros pour développer ses recherches sur les exosomes. On vous explique ça dans cette édition. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le brief.
Le brief, c'est info, dès 7h.
La campagne de recrutement pour tester la semaine des 4 jours sans perte de salaire touche à sa fin. C'est un projet du ministre socialiste du Travail, Pierre-Yves Dermagne, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas suscité un gros engouement auprès des entreprises. Corentin Di Prima, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous avez récolté les premières informations auprès du bureau du plan pour l'Écho. Le projet semble mal embarqué. Pourtant, il y avait 500 entreprises intéressées au départ, mais seules 5 organisations participeront à l'expérience. La plupart viennent du secteur non marchand, donc ça n'est pas très représentatif non plus de l'économie. C'est interpellant. Pourquoi y a-t-il si peu de candidats finalement, Corentin ?
On n'a que des hypothèses à ce stade, on n'a pas d'éléments concrets puisqu'il y avait une grosse confidentialité autour du processus. Mais ce qu'on peut dire, à mon avis, c'est que la plupart des entreprises ont peut-être sous-estimé les contraintes administratives, organisationnelles que ça allait impliquer. Peut-être aussi en interne des réticences, y compris du personnel. Il allait falloir se réorganiser pas mal de choses en interne et ça peut-être que finalement c'était plus compliqué que prévu, y compris pour les travailleurs. D'autre part, on est dans un contexte économique assez incertain, qui n'incite peut-être pas les entreprises à prendre trop de risques par rapport à des expérimentations de ce type actuellement. Et je discutais aussi avec un expert du marché du travail qui disait qu'en Flandre, selon lui, l'expérience n'aurait jamais pu prendre dans le contexte actuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de pénurie de main-d'œuvre et donc peu d'entreprises auraient intérêt à aller se priver d'un cinquième du temps de travail de leur main-d'œuvre alors qu'elles ont déjà du mal à remplir les postes dont elles ont besoin. Donc voilà, tout ça fait que sans doute ce projet était mal embarqué dès le départ. Ça aurait pourtant pu sans doute être quelque chose d'intéressant à suivre. L'étude va se poursuivre malgré tout, mais sa portée et sa validité scientifique sera fortement réduite.
Et les résultats d'études devraient être connus dans un an, en avril 2025. N'espérez pas trop recevoir votre courrier sans encombre. Aujourd'hui encore, 2 heures de réunion entre les syndicats et la direction hier après-midi n'ont pas suffi à calmer les tensions chez Bipost. Aujourd'hui, les grévistes bloqueront les centres de tri de Bipost. Les syndicats estiment avoir perdu leur temps hier. Ce qui était proposé est inacceptable pour le personnel, selon eux. Les syndicats demandent que tout soit fait pour maintenir la plus grande part de la distribution des journaux chez Bipost. Ils ne veulent pas entendre parler d'un transfert vers les AMP, une filiale de Bipost dont les contrats sont plus précaires selon eux. C'est pourtant là-dessus que négocient la direction et les éditeurs de presse francophones. En Flandre, une partie du volume sera peut-être cédée aux distributeurs privés PPP, mais de l'autre côté de la frontière linguistique, les syndicats sont plus mesurés. Ils ne font pas grève en tout cas et ils disent vouloir éviter un plan social. Alors la piste d'un transfert aux AMP serait d'après eux la moins mauvaise des solutions. Une nouvelle rencontre entre les syndicats et la direction de Bipost est prévue ce matin. La plus grande communauté d'entreprises va voir le jour en Wallonie. L'idée était dans l'air depuis 20 ans. L'Union Wallonne des entreprises et les 5 chambres de commerce et d'industrie ne font désormais plus qu'un. Elles s'unissent pour créer Act for Wallonia, Act avec un K. L'Union Wallonne des entreprises, c'est le lobby du patronat au niveau régional. Les 5 chambres de commerce et d'industrie, c'est d'abord beaucoup de networking plus local et puis 140 formations aussi. Mais c'est aussi un réseau international de plus de 12 000 CCI. L'objectif du rapprochement, c'est d'offrir plus aux entreprises, mais surtout de meilleurs services. Mais Act for Wallonia, c'est aussi une manière d'appeler le monde politique à agir. C'est d'ailleurs pas pour rien que le nouvel ensemble se situera à Namur, à deux pas de l'Élysette, le siège du gouvernement wallon. Les acteurs d'Act for Wallonia se rassemblent autour de revendications sur l'emploi, l'énergie ou encore la transition climatique, autant de sujets qui ont un aspect régional et un impact local. Le Parlement européen a validé les nouvelles règles budgétaires de l'Union hier à Strasbourg. C'est le fruit d'intenses discussions de plusieurs années pour concilier les différentes visions politiques. Le nouveau cadre budgétaire doit garantir le redressement des finances publiques des États membres. Il doit aussi veiller à préserver les possibilités d'investissement. Les nouvelles règles seront mises en application dès l'année prochaine. Vincent Joris, pourquoi l'Union s'est-elle lancée dans cette vaste réforme ?
Eh bien, il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, lorsque l'Union européenne a adopté l'euro, pour pouvoir arrimer le Deutsche Mark, qui était la monnaie la plus puissante en Europe, il a fallu concéder des conditions à l'Allemagne, le fameux pacte de stabilité, où on n'autorisait pas les États à dépasser 3% du PIB de déficit public et une dette publique qui ne pouvait pas dépasser 60%. Ces critères étaient vraiment très stricts et on s'est rendu compte durant les années qui suivirent qu'il était pratiquement impossible de les appliquer, notamment lors de la crise des subprimes. On a vu que la Grèce a souffert énormément de cette rigueur. Et donc on a commencé il y a 14 ans un processus pour réformer la gouvernance économique européenne et réformer ces règles très strictes.
Alors 14 ans, ça fait un sacré bout de temps. Le projet était un peu tombé dans les limbes jusqu'à la pandémie et puis la guerre en Ukraine. Les États se sont alors énormément endettés et donc l'Union a vraiment décidé maintenant de reprendre les choses en main. Au final, les sacro-saintes règles du déficit public à 3% et la dette à 60%, ça ne bouge pas. Ce qui change, c'est juste la manière de faire respecter ces principes. Et ça ne plaît pas à une partie de la gauche européenne, Vincent.
Pour les gauches du Parlement et surtout pour les écologistes, on rate l'occasion d'éviter l'austérité, la fameuse austérité qui va empêcher d'investir. Pour les écologistes, c'est dramatique, dans la transition climatique et pour l'extrême gauche, tout simplement, d'investir pour développer l'économie, pour la faire croître, comme ils le préconisent. Mais ça se discute, et évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à déterminer, parce que s'il est vrai d'un côté que l'endettement est très important, si on laisse monter les dettes trop fort, ça va être compliqué après de trouver de l'argent pour l'injecter de manière utile dans les entreprises. Mais si on n'injecte plus d'argent dans les entreprises, la croissance va devenir atone. Donc la question est vraiment importante et elle va se reporter, bien entendu, dans l'esprit des électeurs et ce sera à eux de choisir d'ici quelques semaines lors des élections européennes du 9 juin.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge brute, tous les indicateurs sont au rouge pour Tesla. Pour la première fois depuis 2020, le constructeur de voitures électriques publie des chiffres trimestriels en recul partout et surtout inférieur aux attentes du marché. Le chiffre d'affaires de Tesla a baissé à 21,3 milliards de dollars, le bénéfice net recule de 55% et la marge brute retombe à 17,4%. C'est le seul indicateur qui reste meilleur qu'attendu par les investisseurs. Le groupe attribue cette baisse à un ralentissement de la demande et à une forte concurrence à l'échelle mondiale. Pour tenter de contrer cette concurrence, chinoise notamment, le constructeur promet des modèles moins chers pour le second semestre, des modèles d'entrée de gamme qui pourraient mieux affronter un concurrent comme le chinois BYD par exemple. Cette perspective a rassuré les marchés en tout cas. Malgré les mauvais résultats du premier trimestre, l'action gagnait près de 10% dans les échanges d'après-bourse cette nuit. À Wall Street, le marché était plutôt porteur. Hier soir, tous les indices sont dans le vert et ce matin à Tokyo, le Nikkei gagnait 2%. La biotech liégeoise Exo Biologics ne cesse de se développer. Elle vient de conclure une nouvelle levée de fonds de 16 millions d'euros. Exo Biologics est spécialisée dans le développement et le traitement basé sur les exosomes. Alors, j'ai demandé au CEO Hugues Houellemaecq de nous expliquer ce que sont ces exosomes.
Les exosomes, pour faire très simple, donc c'est un message. Et donc, c'est un message que toute cellule de notre corps peut produire et envoyer à une autre cellule de notre corps. Donc, En soi, c'est un messager biologique qui permet de finalement transmettre la communication à travers notre corps.
Alors, des messages avec des qualités thérapeutiques intéressantes, notamment pour moduler le système immunitaire. Au Légia Parc de Liège, Exobiologics développe notamment une étude pour prévenir une maladie orpheline, la dysplasie bronchopulmonaire chez les nouveau-nés prématurés. C'est un nouveau pan de la médecine qui s'ouvre. Il s'agit de la première étude clinique approuvée en Europe pour une thérapie basée sur les exosomes. En plus, les exosomes sont moins coûteux que les thérapies cellulaires classiques. C'est tout l'intérêt de cette technologie. Les 16 millions levés aujourd'hui vont permettre à la biotech d'encore poursuivre ses recherches.
Donc on va les utiliser en premier lieu pour évaluer finalement l'effet thérapeutique de notre premier candidat. Le deuxième objectif, c'est d'encore améliorer notre plateforme unique, finalement de production d'exosomes, et de pouvoir modifier en fait le message qu'on est capable de produire. Donc de pouvoir, ce qu'on appelle en anglais, engineer en fait le message. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est lié à, en fait à la création d'une filiale qui s'appelle ExoExpert, c'est d'accélérer finalement les partenariats pour en faire bénéficier finalement de cette plateforme d'autres partenaires. Et c'est via cette filiale qu'on a pu récemment signer le premier contrat avec une boîte américaine annoncée la semaine dernière.
Pour la campagne électorale 2024, l'Écho publie des interviews croisées, exclusives, avec des candidats du nord et du sud du pays. La semaine dernière, vous avez pu lire la rencontre assez explosive entre le président de la NVA, Bart De Wever, et son homologue du PS, Paul Magnette. Cette semaine, c'est au tour de la tête de liste européenne pour les engagés, Yvan Verhofstadt, de débattre avec la ministre fédérale de l'énergie, Tine van der Straaten. Rien ne les oppose plus que l'avenir du nucléaire dans notre pays. La ministre croit à un avenir sans atomes. Je vous propose un extrait.
En dan zijn we nadien geconfronteerd geweest met de invasie van Rusland in Oekraïne.
Nous avons été confrontés à l'invasion de la Russie en Ukraine, ce qui nous amène à dire d'accord. Dans ces circonstances, il n'est absolument pas approprié d'accélérer la transition énergétique en continuant à seulement miser sur les centrales au gaz. Nous avons décidé de prolonger de 10 ans la durée de vie de deux centrales, conjointement à la décision d'aller encore plus vite sur les énergies renouvelables, en particulier avec nos éoliennes offshore. La mise en œuvre de ces mesures qui nous ont demandé beaucoup de travail a conduit la semaine dernière à l'adoption de tous les textes au Parlement fédéral. Elle a permis de lancer d'ici la fin de l'année la vente aux enchères pour nos éoliennes offshore. La sécurité d'approvisionnement n'a jamais été aussi assurée qu'aujourd'hui.
Un point de vue que ne partage pas tellement le candidat désengagé, Yvan Verhofstadt.
Moi, personnellement, je dirais pas jusqu'à dire que notre sécurité n'a jamais été aussi élevée. Enfin, c'est vrai qu'il y a des étapes qui ont été placées, et heureusement qu'elles ont été placées, et heureusement que ce gouvernement a réussi à les placer. Bon, ceci dit, c'est déjà un drôle de signe de se dire qu'on a eu besoin, quelque part, de cette guerre terrible en Ukraine pour se rendre compte que le gaz n'était pas forcément la bonne idée, et que remplacer des centrales nucléaires par de l'énergie renouvelable, on ferait mieux de remplacer des centrales au gaz par de l'énergie renouvelable de manière systématique, de manière plus fondamentale.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette longue interview dans les pages du jour sur l'écho.be ou sur notre application. Je vous glisse le lien dans les notes de l'épisode. Juste un petit mot encore pour vous signaler que le Sénat américain a approuvé un paquet d'aide de 95 milliards de dollars à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. La Chambre des représentants avait adopté ce texte il y a deux jours. Les premières munitions devraient arriver en Ukraine cette semaine encore, promet Joe Biden. N'oubliez pas de voter pour nous au Belgian Podcast Award. Le Brief est nommé dans la catégorie des meilleurs podcasts francophones. Je vous glisse le lien vers les votes dans les notes de l'épisode. Vous verrez, ça ne prend que quelques secondes. Merci à Andy Noirès qui a préparé cet épisode. On se retrouve demain pour un nouveau brief. À demain.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.